J'ai pensé à un message de Pâques que je ne pourrais pas donner tout ce matin, donc on va l'étaler sur dimanche prochain. C'est ce message qui touche nos cœurs. On l'a déjà vu ce matin, on en a parlé. C'est un message qui doit toucher pas simplement notre pensée, notre intelligence, mais doit descendre dans notre cœur. Nous savons beaucoup de choses dans nos pensées, parfois même de trop. On dit que trop d'informations tue l'information, c'est le cas d'Internet. C'est parfois des choses dont nous ne nous souvenons plus, alors qu'un tas d'informations, on a plus que jamais. Et c'est pas pour autant que les gens se rappellent plus que quand il n'y en avait pas. Mais ce qui est important, c'est notre cœur, que notre cœur soit touché. Et que le Seigneur puisse vraiment toucher le cœur de ceux qui le cherchent. Parce que Dieu est un Dieu qui se laisse chercher, se laisse trouver, mais il faut que nous le cherchions. Dieu ne s'impose pas. Dieu nous a créés à son image. Et nous avons tout. D'ailleurs, l'apôtre Paul, un jour, dans les Romains, il le dit. Il a dit, les hommes ont tout pour savoir que Dieu existe. Et je peux vous assurer que même si les sondages disent qu'un Français sur deux pense que le Christ ne peut rien amener, c'est parce qu'ils ont une mauvaise image du Christ. Ils ont une image de la religion, mais pas du Christ. Parce que s'ils étaient logiques avec eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils vont passer par la mort et que sa personne n'y échappe. Ce n'est pas un Français sur deux qui échappe à la mort, ça se saurait. Voilà. Donc nous sommes tous concernés par la question de la mort. Et aujourd'hui, nous célébrons Jésus qui a vaincu la mort. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est un imposteur? Je crois que la question mérite d'être posée, au moins si nous ne croyons pas. Parce que où Jésus dit vrai, et auquel cas le message, ça vaut le coup de s'y attarder un petit peu. Quel est le message de Jésus? S'il ne dit pas vrai, effectivement, là, on a un gros problème. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus sur la même planète, quoi. On vit ailleurs, dans une bulle. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bulles en ce moment, où les gens vivent dans des bulles, et le jour où ils se réveillent, l'atterrissage, ça fait mal. Voilà, donc Pâques touche notre cœur, il touche notre histoire, il touche la question de la mort. Je voudrais lire avec vous un passage, je pense, qui en lui-même déjà peut nous parler, c'est dans Luc 24, le fameux passage des disciples d'Emmaüs, qui, à cet égard, ils peuvent nous apporter beaucoup. Luc 24, versets 13 à 35. « Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'environ 60 stades. » 60 stades, c'est 11 kilomètres. Donc 5 kilomètres à l'heure, ça fait 2 heures de route à pied, 4 heures aller-retour. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Voyez-vous, Jésus s'approcha. Est-ce que dans notre vie, Jésus ne s'approche pas de nous? Très souvent, Jésus s'approche de nous. Et je crois qu'il faut que nous soyons prêts, dans cette histoire de la vie, à voir Jésus qui s'approche de nous, parce qu'il est vivant et il s'est approché de ses disciples à ce moment-là. Et pendant mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ? » « Quoi ?» leur dit-il, comme s'il ne savait pas. Il leur répondit, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant le peuple. » Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues au tombeau de bon matin. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses, tout comme les femmes l'avaient dit. Mais ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et leur en donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Quel enthousiasme! Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montrait ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit, le mangea devant eux, et leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ainsi, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Quel récit. Quel récit. Nous pouvons, à plusieurs égards, nous identifier à ces disciples. Parce que nous aussi, nous sommes aveuglés. Aveuglés par le monde, aveuglés par nous-mêmes, par nos pensées, par nos attentes. Nous nous aveuglons nous-mêmes sur toutes sortes de choses, et les idoles en particulier, qui sont partie prenante de notre vie de tous les jours. Dieu ne nous demande pas d'y participer, mais elles sont là, elles existent, elles remplacent Dieu, elles nous aveuglent. Elle nous aveugle parce qu'elle projette une image de nous, de l'humanité, qui est une illusion, une vanité. Les idoles dans la Bible s'appellent vanité. Et ceux qui s'y attachent deviennent vains. C'est ça le principe de base. Ceux qui s'attachent à l'idole deviennent des vanités. C'est-à-dire qu'ils ne servent à rien, on les jette. Parce que c'est comme quand vous avez fini un papier, vous jetez à la poubelle, il ne sert plus à rien, on le détruit. C'est ça, la vanité. Et les hommes s'attachent aux vanités. François Mitterrand, qui... Je ne suis pas en train de parler de lui en tant que président de la République, mais en tant qu'homme, à la fin de sa vie, il a dit à ses collaborateurs, « Tout est vanité. » Quelle vanité! Il a vu beaucoup de gens autour de lui. Lui-même était de ce cas-là. Tout est vanité. Est-ce que vous croyez que ça vaut le coup de vivre une vie de vanité? À la fin de la vie, on vous prend, on vous jette. Vous ne servez plus à rien. Est-ce que c'est ça que nous voulons vivre? Alors? Ou est-ce que nous voulons vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue? Voilà la question. Et voilà la réponse à laquelle Jésus répond. Il dit, la vie que tu vis, elle vaut la peine d'être vécue à condition que tu ne t'attaches pas aux vanités, à ce qui te fait rêver et qui ensuite disparaît et n'existe plus. Regardez toutes les idoles, regardez aujourd'hui, moi je ne voudrais pas être une femme, bon, les hommes ont leurs problèmes, mais les femmes, la pression qu'on met sur elles pour qu'elles ressemblent à... un fil de fer, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est très, très, hein, très, très noble. Hein. Pourtant, c'est cette pression qui existe. Et on a des pressions dans notre vie, hein, tous les jours. Parce qu'il y a des idoles, il y a des vanités auxquelles l'homme s'attache. Et tout ça, ça disparaît. Mais voyez-vous, il y a une chose qui ne disparaît pas, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés avec un cœur. Et je ne parle pas du cœur qui palpite, hein, qui fait tourner le sang, ce n'est pas ça. Le cœur dans la Bible, c'est le centre de notre personne. C'est le centre. C'est ce que je vous parle en hébreu, là. Hein, parce que si on lit la Bible, il faut connaître l'hébreu. Et l'hébreu, il utilise le cœur comme le centre de la personne. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les facultés que Dieu a créées en nous. L'intelligence, les émotions, la conscience, la volonté, tout ce qui nous fait aussi de vraiment particulier dans cette création que Dieu a fait et que Dieu honore parce que c'était créé à son image. Et ce cœur que Dieu a créé, bon, alors, il y a un corps autour, hein, mais vous avez vu avec Jésus, ce corps, il va revêtir un corps de gloire, et nous revêtirons un corps de gloire. C'est ça notre message chrétien, qui est unique dans toute civilisation du monde. Le seul message où notre corps va être transformé, c'est le message chrétien. Parce que dans toutes les autres religions, c'est décrié. Quand Paul a dit ça, on s'est moqué de lui. On a dit, tiens, c'est... Alors, au début, ils étaient... Vous savez, les Grecs à Athènes, quand ils venaient à Athènes, il a découvert ça, d'ailleurs, Paul, parce que Paul, à l'époque, on ne voyageait pas, on ne prenait pas Ryanair pour aller en Grèce, à Athènes. Bon. Donc, Paul, il ne connaissait pas. Il connaissait Tars, il connaissait Jérusalem, mais pas Athènes. Mais Dieu l'a envoyé à Athènes, et là, il a découvert toutes les idoles qu'il y avait dans la ville. Il était étonné. Et quand il prend la parole, il dit, mais vous êtes extrêmement religieux. Vous avez même des hôtels où vous dites un Dieu inconnu, pour être sûr que vous ne l'oubliez pas. Ils étaient religieux. Tout ce qui touchait était religieux. Les Romains aussi, d'ailleurs. Et je peux vous dire, les Français aussi. Superstition incroyable. Vous n'avez qu'à regarder un petit peu et observer la superstition qu'il y a. C'est la religiosité, ça. Et Paul leur disait, ben vous êtes extrêmement religieux. Et ils commencent à parler de Jésus et la résurrection. Et alors, ils ont commencé à l'écouter. Et vous savez pourquoi ils l'ont écouté? Votre avis, pourquoi ils l'ont écouté? Pardon? Curieux? Mais curieux de quoi? Ouais, mais de quoi à nouveau? Voilà, un Dieu qu'ils auraient oublié. Mais comment fonctionnait leur Dieu? C'est pas le Dieu de la Bible. Hein. Ouais, bah, allez-y. Pardon? Comment les Grecs, bon, mais toutes les civilisations, on considère les dieux? Comment ils les conçoivent, les dieux? Pardon? Oui, mais comment humainement? Soyez un peu plus précis. Pardon? Oui, mais soyez plus précis. C'est tout bête. Il ne faut pas chercher loin. Hein. Les dieux, comment est-ce qu'ils les conçoivent, les dieux? Pardon? Je suis étonné que personne... Oui, mais soyez plus précis. Les Français sont très généralistes. Soyons précis. Pardon? Soyez plus précis. Attendez. Quand vous regardez les hommes, qu'est-ce que vous voyez les hommes? Quand je vois là, en face de moi, Isabelle et Yves, qu'est-ce que je vois? Pardon? Non? Mais je vois un homme et une femme. Mais c'est aussi simple que ça. Ils conçoivent les dieux comme un homme et une femme. C'est tout bête, c'est les humains, oui. Mais soyons plus précis, un homme et une femme. Alors, bien sûr, ils ont une vision humaine, c'est une projection de Dieu. Voyez-vous, quand on a fait l'Expo Bible 2006, on était attaqué par les libres penseurs. Je ne savais pas, je savais que ça existait bon, dans les bouquins, mais je n'avais jamais vu en face des libres penseurs. Bon, vous savez, moi je viens d'Alsace, il n'y a pas de libres penseurs là-bas, c'est en haut à droite, c'est connu. Bon, avec De Gaulle, bon. Bon, c'est normal, hein, y a un rappel de la libération. Mais libre penseur, je ne sais pas. Et j'étais étonné que le maire de cette ville nous dise, mais écoutez, là, je ne peux plus vous soutenir parce que c'est les libres penseurs qui m'attaquent. Et ils vont me faire un procès parce que je touche un tout petit peu à vous aider. Ils voulaient juste nous aider à mettre des affiches dans la ville sur Bible dans le Mantois. Bon. Pas méchant, mais pour eux, c'était très méchant, très, très méchant. Et donc, ils ont monté une association spéciale pour nous attaquer, pour au cas où le maire fasse quoi que ce soit, il nous donne une salle qui appartient à la République, eh bien, il serait attaqué. Donc, il savait, il a tout arrêté, il est maintenant terminé. Bon. Et les libres penseurs, ce fameux monsieur qui est responsable des libres penseurs, il m'a un jour, il est venu me voir, il m'a dit, vous savez, Dieu, c'est une invention des hommes. Il ne faut pas que vous croyiez à ça. Donc, il venait me voir, il me connaissait bien. Voilà. Donc, il voulait me convertir en me disant, non, Dieu, c'est une invention des hommes. Et il a raison. Les dieux païens sont des inventions des hommes. Ils croient que les dieux doivent être un homme et une femme. C'est-à-dire, ils sont sexués. Pourquoi? Parce qu'ils projettent leur image sur la divinité. Et ils pensent que la divinité, bien, nous descendons de la divinité, et que la divinité est sexuée, un homme et une femme. Et que, pourquoi? Simplement parce qu'ils projettent la créature, ils divinisent la créature. Et ça, c'est les idoles. On divinise la créature. Et pourquoi ils ont écouté Paul? Eh bien, parce que Paul était en train d'introduire des nouveaux dieux. Donc, ils étaient vachement intéressés, parce que pour eux, les Grecs, ils cherchaient tous les dieux possibles, imaginables. Ils allaient en Égypte, ils allaient partout, où puis ils rassemblaient des choses divines, ils les ramenaient, et ils en faisaient des histoires, des légendes, des trucs comme ça. Ils étaient fantastiques, les Grecs, de ce côté-là. Eh bien, quand Paul a parlé de Jésus, ils ont écouté, ils ont dit, il a une femme, ils cherchaient sa femme, c'était Anastasis. Il dit, ah, Jésus et Anastasis, parce que Anastasis, ça veut dire résurrection. C'est féminin, hein. C'est la résurrection, c'est Anastasis. Donc, il pensait qu'il parlait d'un nouveau couple de divinités, de Jésus et d'Anastasis. Vous prenez le texte dans Acte 17 et vous verrez que c'est ça qu'il pensait. Et donc, ils étaient curieux, ils écoutaient et tout ça. Mais, les choses ont tourné quand ils ont compris que c'était pas ça. Et quand est-ce que les choses ont tourné? Quand ces Athéniens ont écouté Paul, ils ont écouté, ils étaient dans l'idée qu'il introduisait une nouvelle divinité, donc c'est vachement intéressant, hein. Bon, on ne le connaît pas, peut-être qu'il peut nous apporter des faveurs, parce qu'en fait, ces divinités, on cherchait des faveurs. Hein. Et très souvent, il y a des chrétiens qui deviennent chrétiens, enfin, ou qui le sont, parce qu'ils pensent qu'aux faveurs. Hein. Mais ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est c'est l'adoration à Dieu, tout simple, et Dieu nous bénit de toute façon. Mais ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce qu'il nous aime, tout simplement. C'est un don gratuit. Et donc, ils ont écouté Paul qui parlait de Jésus, d'Anastasis, donc en grec, qui veut dire la résurrection. Et quand est-ce qu'ils se sont réveillés et qu'ils l'ont fichu dehors parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec lui? Quand? Quand ça a heurté, bien sûr, leur religion. Mais qu'est-ce qui heurtait leur religion? Qu'est-ce qui heurtait leur conception des choses? Pardon? Il y a quelque chose qui les heurtait. Bien sûr, ils n'ont pas vu au départ du développement de Paul ce qui les heurtait. Donc, ils ont écouté. Mais à un moment donné, paf, ça n'allait plus. Et là, terminé, rideau, ça ne marche plus. Ça, ils n'y croient pas. Et c'est interdit d'en parler. C'est quoi? Pardon? Non, non. Oui, c'est très simple, c'est la mort, c'est le corps ressuscité, un corps nouveau, le corps de résurrection de Jésus, que Jésus est ressuscité, qu'il a un corps nouveau. Vous voyez là, il apparaît aux disciples, mais les disciples pensaient que c'était un esprit. À l'époque, on n'avait jamais vu de personnes ressuscitées. On connaissait les esprits. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne croient pas aux esprits, mais pourtant ils existent. Tu les as créés comme nous. Bon. Donc il faut connaître cela. C'est le monde spirituel. Mais eux, les disciples, ils croyaient que c'était un esprit. Jésus venait un esprit. Il leur a dit non. Regardez, j'ai encore les marques. Et ils mangeaient. Ils demandaient à manger pour leur montrer qu'il a un corps nouveau. Et le corps de résurrection, c'est-à-dire un corps, être dans un corps, ça c'est une abomination pour les Grecs. Et c'est une abomination pour toutes les religions. Pourquoi c'est une abomination pour les religions? Parce que la religion, par nature, elle cherche à nous mettre en contact avec la divinité, donc avec les esprits. D'accord? Ça, les esprits, ils y croient. Hein. Les dieux, c'est autre chose. Les dieux, c'est une invention... Des images d'invention, comment Dieu existe. Mais les esprits, ils y croient. Et donc, pour connaître ces esprits, il faut sortir du corps. Le corps est un empêchement à rencontrer les esprits. Vous voyez, dans tout, aussi bien dans l'occultisme que dans la religion, le corps est un empêchement. Parce que le corps nous pousse à rester là dans la gravité terrestre. Il ne permet pas de nous sortir de nous-mêmes pour explorer tous ces extraterrestres, comme certains... Bon, c'est un arrangement des esprits, hein, les extraterrestres, etc., etc. Voyez-vous, le corps, dans toute religion, est une malédiction. Parce que, eh bien, ça empêche le spirituel. Or, dans le christianisme, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grande créativité, nous a conçus avec un corps. Les anges, certes, sont des esprits, mais pas les humains. Nous avons un corps. Et c'est pourquoi, dans l'adoration, eh bien, le Seigneur nous invite à utiliser tout notre corps. Et moi, j'encourage la danse, bien que dans certaines églises, mais parce que je vois les jeunes filles qui sont habillées dignement et tout ça. Il y a un respect, hein, qu'il faut dans la danse. Et ça, je suis très sensible à ça. Mais que tout notre être, tout notre corps loue le Seigneur et l'adore. Hein, c'est le principe de l'adoration, c'est que nous louons de tout notre être, esprit, âme et corps. Parce que le corps n'est pas une malédiction, puisque à la fin des temps, nous aurons un corps nouveau, un corps glorifié. Un corps, certes, qui n'aura plus de maladie, qui n'aura plus toutes ses imperfections, mais nous aurons un corps. Et ça, c'est la nouveauté que les Grecs n'acceptaient pas. Pourquoi? Parce qu'ensuite, après, ben, bien sûr, il y a la repentance, etc., qui va avec, qui bien sûr, les gênait beaucoup. Parce que toutes ces religions, eh bien... ils envoient vers la facilité, hein, vers simplement des choses faciles. Et notre corps, eh bien, il faut le traiter durement. Paul disait, je le traite durement, mon corps. Et pourquoi il traitait durement mon corps? Parce qu'il savait que l'éternité, c'est l'éternité. C'est ni de débarrage, ni de fin, mais que la vie dans ce corps est certes courte. Et on peut, avec la grâce de Dieu, eh bien, maîtriser notre corps pour être à la gloire de Dieu. Et ça, je bénis Seigneur que vous, les jeunes, vous apprenez ça. Et je vous encourage à rester dans cette attitude pour glorifier le Seigneur par votre corps, parce que il est une créature, une création de Dieu, et que nous pouvons le glorifier. Et le Seigneur, je vais m'arrêter là, puisque j'ai dépassé l'heure, eh bien, le Seigneur a ouvert les yeux de ses disciples d'Emmaüs, et il veut ouvrir nos yeux, en nous montrant que ce n'est pas une religion, que Jésus-Christ ressuscité est quelque chose d'unique dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire de l'humanité, jamais personne n'est ressuscité. Et Jésus est le premier, les prémices, hein, comme à la Pentecôte, c'est les premières gerbes qu'on récolte. Et nous, à la moisson, lorsque la grande moisson du jugement sera là, eh bien nous, nous ressusciterons avec lui et nous serons éternellement dans sa gloire. Alléluia. Quelle perspective. Et ça, ce n'est pas une illusion. Ça, c'est une réalité. Et quand on rencontre Jésus et quand on fait cette expérience avec lui, on expérimente cela. La vie est changée, bouleversée. Dieu nous donne un sens et nous donne le sens que la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'il y a quelque chose au bout. Il y a une réalité au bout. Et cette réalité, nous la tenons déjà parce que Jésus nous l'a prouvé. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et il change notre cœur. Et notre cœur, il se réchauffe, comme ceux des disciples d'Emmaüs, quand nous sentons que c'est vrai, quand nous sentons que ce message est vrai et qu'il répond à une réalité, là, notre cœur se réchauffe parce que l'espérance est au bout, parce que nous savons que nous ne sommes pas dans l'illusion, nous savons que nous ne sommes pas dans le mensonge, mais que nous serons un jour éternellement avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons l'expérimenter, bien sûr, imparfaitement, parce que le Seigneur est un Dieu qui se cache, mais un jour, il sera le soleil. Il n'y aura plus de lune et de soleil, parce que c'est lui qui nous éclairera dans sa présence. Je vous invite à la prière pour que le Seigneur nous aide à ce qu'il touche notre cœur, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Seigneur, je te remercie, parce que tu as touché ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui étaient désespérés, parce qu'ils ont perdu, cet espoir qu'ils avaient. Et là, ils t'ont rencontré, vivant, pour l'éternité. Seigneur, tu veux aussi nous rencontrer, nous, chacun d'entre nous, pour nous donner cette espérance. Et je te prie que tu le fasses pour chacun de nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons besoin d'être changés, besoin d'être transformés, besoin, Seigneur, d'une espérance nouvelle. Et de savoir, Seigneur, qu'un jour, tu essuieras toute larme, tu essuieras, Seigneur, toute peine, toute chose qui nous font du mal, Seigneur, cela n'existera plus parce que nous serons dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à garder nos yeux tournés vers toi pour que tu puisses vraiment nous transformer à ton image. Alléluia.